VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. On commence par la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017 au Gabon. Au programme ce lundi, en groupe B, Tunisie, Zimbabwe et Sénégal-Algérie. Les Lions sénégalais de la Teranga sont déjà qualifiés pour le prochain tour, alors que les Fenech algériens doivent absolument l'emporter pour espérer arriver au quart de finale. Par ailleurs, en groupe A, le Gabon, pays organisateur, est éliminé et le Cameroun termine deuxième du groupe. Hier, à l'issue de la troisième journée, les Panthers du Gabon ont été tenus en échec 0-0 par les Lions indomptables camerounais. Le point avec notre envoyé spécial à la CAN, Timothée Donangmaï.
Les Panthers du Gabon quittent la CAN 2017 en phase de groupe, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé de se maintenir dans la compétition. Très entreprenantes à l'entame du match de dimanche soir contre les Lions du Cameroun, elles ont déployé la même énergie aux minutes finales, manquant d'ouvrir le score aux arrêts de jeu. Un maigre lot de consolation qui pourra difficilement panser le cœur meurtri des fans gabonais. Pour le coach José Camacho, qui a pris en main les Panthers à 2 mois de la compétition, il ne fallait pas s'attendre au miracle.
Je suis désolé pour les joueurs et le public. On a vu que dès les premières minutes, on voulait gagner. On a les victoires, on n'a pas eu de chance. Pour passer au quart de finale, nous a manqué les 2 points qu'on a perdus dans le premier match.
Après leur déception, les Gabonais auront-ils le cœur à aller au stade applaudir les autres équipes? C'est ce qu'espère la Confédération africaine de football et le comité local d'organisation. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA.
Dans cette poule A, le Burkina Faso a battu la Guinée-Bissau 2-0 et se retrouve en quart de finale avec le Cameroun. Politique africaine maintenant. Crise en Gambie, les troupes d'une force régionale sont depuis dimanche à Banjul, la capitale, où elles ont été accueillies par une foule enthousiaste, quelques heures après le départ du président sortant, Yahya Jammeh. Ce dernier a trouvé refuge en Guinée équatoriale après une brève escale à Conakry. La MICEGA, la mission de la CEDEAO en Gambie, doit maintenant ouvrir la voie au retour du président gambien Adama Barrow, lequel avait été investi à la tête du pays à l'ambassade gambienne à Dakar le jeudi 19 janvier. Georges Ebion nous résume les principaux points de l'actualité gambienne.
Jusqu'à dimanche soir, aucune déclaration n'a été faite sur le retour en Gambie du nouveau président, mais on laisse entendre qu'il le ferait dès que possible. Marcel Alain de Souza de la CEDEAO a fait savoir que certains éléments des forces de sécurité gambiennes doivent être immobilisés avant le retour d'Adama Barrow. Un autre porte-parole a déclaré aux journalistes à Banjul que la capitale serait inspectée ce lundi pour déterminer si la sécurité est adéquate pour le retour en toute sécurité de M. Barrow. Le département d'État américain a salué la transition pacifique en cours du pouvoir en Gambie et a félicité Adama Barrow pour son investiture. Le porte-parole intérimaire Mark Turner a également salué la modération montrée par le peuple gambien au cours des dernières semaines alors que Yahya Jammeh cherchait vainement à s'accrocher au pouvoir. Séparément hier, un haut conseiller de M. Barrow, s'exprimant au Sénégal, a allégué que Jammeh a pillé les comptes bancaires du gouvernement dans les derniers jours de son règne. Mai Amai Fati a déclaré aux journalistes que les coffres de sa petite nation sont, selon lui, pratiquement vides. Selon lui, le ministère des Finances et la Banque centrale de Gambie avaient confirmé que plus de 11 millions de dollars ont disparu au cours des 2 dernières semaines seulement. Pourtant, la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU ont annoncé garantir les droits de l'ex-président, y compris à revenir dans son pays, tout en se portant garante de ses propriétés, celles de sa famille et des membres de son régime ou de son parti.
Au Mali, la classe politique malienne serre les coudes après l'attaque kamikaze de la semaine dernière à Gao dans le Nord. Un grand rassemblement des principaux leaders politiques de la majorité de l'opposition et des représentants des organisations de la société civile s'est déroulé à Bamako pour dire non au terrorisme. Il y a eu aussi des prières dans les mosquées et églises du pays pour le repos des âmes des victimes de l'attentat de Gao. À la réunion de Bamako, le président malien a souligné sa détermination de combattre le fléau du terrorisme. On écoute le président Ibrahim Boubacar Keïta.
Le mouvement qui a osé revendiquer avec panache ce crime, il le paiera. Al-Mourabitoun paiera cela. Il ne sera pas dit que ces jeunes gens auront été massacrés en vain par des hommes sans foi ni loi. Il nous reste, chers amis, tous à combattre le monstre et à le poursuivre jusque dans ses dernières extrémités. Et cela sera le cas, Inch'Allah.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Politique au Burundi, les représentants de l'opposition politique, de la société civile et de la diaspora burundaise se sont réunis ce week-end en Belgique pour arrêter une stratégie commune contre le pouvoir burundais. Cette réunion a rassemblé 34 personnalités, dont les principales figures politiques regroupées au sein du Sénared et les délégués de la société civile ayant fui le Burundi en raison de la répression sanglante qui s'est abattue sur le pays. Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis l'annonce en avril 2015 de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat controversé et son élection en juillet de la même année. Les violences ont déjà fait plus de 500 morts et poussé plus de 300 000 personnes à quitter le pays depuis avril 2015. À Maurice, le premier ministre mauricien Sir Anuro Djougnot a présenté ce lundi sa démission à la présidente Amina Gorib Fakim, qui a aussitôt nommé son fils Pravin Djougnot pour le remplacer. M. Djougnot, 86 ans, un classique de la vie politique mauricienne, avait annoncé samedi son intention de ne pas aller au bout de son mandat, censé prendre fin en 2019. Pravin Djougnot, 55 ans et actuel ministre des Finances, est le chef du mouvement socialiste mauricien MSM, le principal parti de la coalition au pouvoir. C'est à ce titre que la présidente Gorib Fakim lui a demandé de succéder à son père. Actualité américaine maintenant. Le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé dimanche qu'il allait commencer à renégocier l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, avec les dirigeants du Canada et du Mexique qu'il doit rencontrer prochainement. L'ALENA, entré en vigueur en janvier 1994, associe les États-Unis, le Canada et le Mexique dans une vaste zone de libre-échange. Cette organisation fait partie des cibles privilégiées de Donald Trump qui reproche à l'ALENA d'avoir encouragé l'exode d'emplois manufacturiers américains vers le Mexique. Et puis à peine 48 heures après sa prestation de serment, le président Donald Trump est aux prises avec la presse qui l'accuse d'avoir falsifié les données sur la participation du public à son investiture. Pourtant, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a des questions sérieuses à aborder dès la première semaine de son mandat, notamment les décisions pouvant affecter l'économie et la diplomatie américaine. Gabi Dorcy en a discuté avec l'ancien secrétaire d'État américain adjoint pour les affaires africaines, Herman Cohen.
Son discours après avoir prêté serment était très pessimiste. Le pays est en très mauvais état, les gens sont en train de souffrir. Et il y a une petite bande de politiciens à Washington qui s'est enrichie et ils n'ont rien fait pour le peuple. Donc il a insulté tous les politiciens qui étaient là sur la plateforme avec lui, tous les anciens présidents, etc., même les républicains. Donc, il a commencé avec la controverse et après, il s'est embourbé avec la question de combien de gens étaient présents pour l'inauguration. Il a dit que c'était le plus grand nombre dans l'histoire, tandis que les photos ont montré qu'Obama a eu beaucoup plus de gens que lui. Donc, à mon avis, il est mal parti.
On le critique d'autant qu'il l'a fait à la CIA, dans un endroit qui est plutôt vénéré.
Dans un endroit avec des étoiles pour les gens de la CIA qui ont perdu leur vie pendant leur travail. Il a commencé à attaquer la presse. C'était pas bien. Donc, il n'a pas la capacité de ne rien dire.
Et cela nous amène à samedi. Comment rester en silence, de toute façon, quand il y a des centaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue pour vous critiquer?
Non, il a dit deux choses. D'abord, il a dit, s'ils sont tellement enthousiastes contre moi, pourquoi ils n'ont pas voté? Mais la réponse est qu'ils ont voté parce que Mme Clinton avait 3 millions de votes plus que lui. Mais après, il a dit « je respecte le droit de manifester, ça fait partie de notre démocratie ». Donc, il a bien fini avec cette histoire, il a dit des bonnes choses.
À quoi faut-il s'attendre pendant cette première semaine de Donald Trump dans le bureau ovale de la Maison-Blanche?
Le premier ministre d'Angleterre va venir ici. Et comme vous savez, l'Angleterre va quitter le marché commun, l'Union européenne. Et il a dit que c'est une bonne chose. Donc, il va proposer des accords bilatéraux avec différents pays, et en commençant avec l'Angleterre.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires africaines. Merci de votre attention.
Afrique.